Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à vous les curieux et des bises pour vous aussi, bien entendu. Bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Vous allez bien, Thomas? Tiens, je vous embrasse.
Ah, chouette.
Ça commence bien cette émission.
J'en rêvais depuis 3 ans.
Sur RTL, la première radio de France. Vous êtes peut-être en train de rentrer chez vous dans la voiture ou tiens, en train de préparer le dîner. On va essayer de vous passionner comme d'habitude. Vous pouvez réagir au 3210 sur RTL.fr et puis sur les réseaux sociaux, si vous aimez ça, avec le mot dièse, la curiosité RTL.
Le Bon Marché, le Printemps, la Samaritaine, les Galeries Lafayette, on vous raconte la naissance des grands magasins. Avec eux, l'invention des prix fixes, des étiquettes, des soldes, des rayons, des collections, de la publicité, des vitrines. On plongera dans un 19e siècle vivant et commerçant.
Et puis on va vous raconter un destin digne d'un roman noir. Comment le chiffonnier Joseph Joanovici est-il devenu milliardaire à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale? Ce juif immigré a été collabo, résistant, ou les deux à la fois, vous verrez bien. Récit dans la seconde partie de l'émission.
Et puis vous découvrez peut-être la curiosité de notre émission. C'est du lundi au jeudi, de 20h à 22h sur RTL. Et on vit parfois des moments magiques, comme quand le plongeur François Sarano revit sa rencontre avec les géants des mers, requins blancs et cachalots.
Quand tout d'un coup, un animal sauvage, libre, indompté, un grand requin blanc ou un cachalot vient vous voir, vous accorde un regard, un moment. La rencontre est vraie, authentique. On ne triche pas avec les animaux sauvages.
Voilà, ça c'était un des grands moments de l'émission la semaine dernière, c'était jeudi, si je ne me trompe. On vous proposera comme ça régulièrement des extraits des meilleures interviews. Vous pouvez évidemment les réécouter en podcast sur rtl.fr et ça nous offre une transition tout trouvé avec notre prochain invité qui lui aussi se passionne pour les animaux. On observe tout de suite les insectes et on va de surprise en surprise.
RTL. Bio vient du grec et veut dire vie. Mimétisme signifie imiter. Donc le biomimétisme, c'est imiter le vivant.
Si belle soit la vie, c'est une tombole.
Cela consiste à regarder comment la nature fait les choses pour s'en inspirer et proposer des solutions durables à nos défis les plus urgents.
Par exemple, pour la pluie, on n'est pas équipé, on s'énerve, on est trempé, on court, non? Si la nature était bien faite, on aurait des cheveux en plastique, comme les Playmobil.
C'est de l'innovation inspirée par la nature.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le biomimétisme version Cérone, Florence Foresti et Michel Delpech. Et aussi Adeline François, tiens, elle en parlait hier matin dans sa revue de presse, un article des Échos qui dévoile le travail de chercheurs à Harvard. Ils ont mis au point, écoutez bien, un drone minuscule capable de remplacer les abeilles. Bonsoir Serge Berthier.
Bonsoir.
Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes professeur de physique à l'université Paris Diderot, chercheur à l'Institut des nanosciences de Paris. Un drone de 80 milligrammes, ça sert à quoi en fait? À remplacer les abeilles?
Oui. Alors ça, c'est pas bon. C'est un exploit. C'est sûrement. C'est peut-être une catastrophe écologique, mais c'est typique de nos façons de fonctionner. Ça, on tue les abeilles et au lieu d'arrêter de les tuer,
on les remplace. Ouais. Parce qu'elles vont faire le boulot des abeilles.
Les abeilles sont les premiers pollinisateurs de la terre, mm-hmm. Et c'est vrai qu'elles disparaissent en ce moment de façon comme ça n'est jamais arrivé. Et donc c'est un danger.
Mais c'est pas pour faire de l'espionnage ces petits robots abeilles.
Ça fera tout. Ça, c'est
parce que juste pour faire du miel, c'est beaucoup de mal pour rien.
C'est le miel, c'est pas le miel, c'est tous les fruits, tous les légumes. Enfin, etc. Hein. Mais ça servira bien sûr à faire de l'espionnage, oui.
Il y a beaucoup de laboratoires.
Oui. La mouche d'Astérix.
Oui. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent aujourd'hui dans le monde, justement, sur ce biomimétisme, oui. C'est-à-dire qui observent les animaux en général. Et là, ce soir, on s'intéresse aux insectes.
C'est quelque chose qui se développe beaucoup actuellement. Plus lentement en France qu'ailleurs, je dois dire. Les Allemands sont très forts là-dedans. Et sinon, les Anglo-Saxons, bien sûr.
À quoi ça sert?
Bah, ça sert que quand on n'a pas d'idée, on va piquer celle des autres. Quoi. C'est les approches très classiques. Donc l'idée ici, c'est que les animaux, ils ont eu le temps de s'adapter à toutes les situations possibles et imaginables. Et nous, on n'a finalement pas tellement eu de temps, et donc on va regarder quelles seraient les idées à prendre, des idées de pas seulement d'éléments d'ailleurs, ça peut être aussi des stratégies pour se déplacer. Est-ce que prendre le plus court chemin, c'est toujours le plus rapide? Enfin voilà, il y a des choses comme ça que les insectes font très bien, par exemple. C'est pas que une idée comme ça, une seringue, ou c'est aussi des stratégies.
Sur le comportement. Bon, on a au moins cette humilité là, nous les humains. Serge Berthier, vous listez ces recherches dans un livre, Comment fait le gecko pour marcher au plafond? C'est publié chez Belin. On y découvre que les animaux ont des pouvoirs comme ça extraordinaires et que nous les hommes, on s'en inspire. On s'inspire par exemple du criquet. Qu'est-ce qu'il fait mieux que les autres, que tous les autres animaux?
Oh, probablement beaucoup de choses, mais on le connaît pour ses sauts. Donc le criquet saute, voilà, magnifiquement bien pour sa taille.
Très haut.
Très haut, hein, donc un criquet, ça saute un mètre cinquante, quoi, des choses comme ça. Donc si on transposait ça à l'échelle humaine, ça ferait des sauts de 20 mètres, quoi.
Oui. Pourquoi il saute si haut? Quel est son talent, sa qualité? Qu'est-ce qui lui permet de faire ça au criquet?
Alors c'est quelque chose qu'on découvre chez beaucoup d'animaux. D'ailleurs, c'est pas le seul. Hein, la puce fait pareil, les colamboles. Il y a une crevette qui fait la même chose. Hein. Donc l'idée, c'est que quand moi je contracte mon biceps, ça fait plier le bras. Et eux, quand ils contractent les muscles, ça ne fait pas bouger le membre. C'est-à-dire qu'ils accumulent l'énergie et ils la libèrent d'un seul coup. Et donc ça donne une force colossale. La crevette mente, elle a, il y en a une qui a cassé la vitre de l'aquarium en tapant dedans avec sa pince. Avec cette stratégie-là, hein. Donc il faut des exosquelettes, des choses comme ça. Mais voilà, c'est donc le criquet fait ça, la puce fait ça. Enfin,
et on va comprendre dans un instant pourquoi ça intéresse les chercheurs et comment on essaye d'imiter, entre autres, le criquet. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Observer les animaux pour faire progresser la science, c'est ce que font des chercheurs un peu partout dans le monde, et notamment notre invité, le professeur de physique Serge Berthier, spécialiste des nanotechnologies, c'est ce qui est tout petit. Alors on est dans le monde du petit avec vous, on parlait de ces criquets qui ont un talent fou qu'on n'a pas nous les humains, c'est de sauter très haut, ils font quelques centimètres et ils sautent jusqu'à 1,50 m. Nous, si on se mettait à sauter, ça ferait quoi, 20 mètres, c'est ce que vous disiez?
À peu près, oui, en proportion, oui.
Et ils font ça sans plier les membres, sans contracter les muscles.
Voilà, c'est une technique d'emmagasiner de l'énergie et de la libérer instantanément, et donc ça permet comme ça des sauts extraordinaires. Mais c'est ce que font les puces.
Et les chercheurs en font quoi de ça?
Ben, ils en font. Ça peut être ça demande une architecture particulière. Hein, donc, faut un exosquelette, c'est-à-dire pas avoir le squelette à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mm-hmm. Mais c'est des objets qu'on essaie de développer beaucoup, parce que justement, on peut avoir des forces colossales avec un exosquelette, beaucoup plus qu'avec un squelette interne. Et donc, ça peut servir pour des robots.
Mais c'est-à-dire, hein, par exemple,
faire sauter un robot, tout bêtement. Par exemple, je sais pas quel est l'intérêt de faire sauter un robot, mais s'il doit le faire, actuellement, aucun robot n'est capable de sauter. Il marche, quoi. Ouais.
Il y a un robot quand même qui imite le criquet, il s'appelle Taube.
Je parlais des robots. Taube, je crois que c'est un criquet qui est développé en Israël.
Un robot
à Tel Aviv. Oui, un robot, oui, un criquet. Oui.
un robot criquet.
Ouais,
mais on est où?
Qui est développé en Israël. Bon, on apprend, si vous voulez, après l'utilisation de ces choses-là. Je pense pas qu'on le développe pour une application bien précise, si vous voulez, un truc qui saute, on lui trouvera des applications. Ce qui est déjà très dur, c'est de le faire sauter. C'est-à-dire d'avoir compris le mécanisme chez l'insecte et suffisamment bien pour être déjà capable de le reproduire sur une bricole, quoi.
Mais ce monde animal, il est quand même dingue. Pendant la pub, vous nous racontiez ce que certaines crevettes sont capables de faire.
Oui, tout à fait.
Avec même système,
sur
en fait.
Sur exactement ce même principe, hein. Donc ça, c'est la crevette mante qui a été beaucoup regarder plus pour ses yeux que pour ça d'ailleurs, mais qui a cette capacité d'emmagasiner des énergies colossales et de la libérer en quelques fractions de secondes, et ça crée des forces colossales. Hein, et
elle
s'en sert pour chasser, hein, tout bêtement.
Elle peut tuer sa proie
distance. Ça fait des ondes de choc dans l'eau qui assomment les proies à distance. Donc elle a même pas besoin de leur sauter dessus, quoi. Elle fait ça de loin.
Elle peut briser du verre aussi.
Elle a brisé. On a eu des exemples où elle a brisé l'aquarium, oui, avec cette technique.
Alors, on va parler d'une bestiole. On va parler d'une bestiole. Normalement, quand on la croise, on a tendance à pousser des cris.
Bah, c'est ma phobie, figurez-vous.
À détourner le regard.
Ma phobie.
Voir à trouver une chaussure pour l'écrabouiller, c'est...
Le cafard.
La blatte.
Pourquoi cafards et blattes intéressent les scientifiques? Pour quel talent naturel?
Pas que les scientifiques. Hein. Déjà, ça se mange dans la moitié du monde.
Ça, c'est pas faux. Oui.
Donc, c'est déjà un intérêt.
Il y a des protéines.
Non négligeables. Alors, les cafards, ça a beaucoup de points d'intérêt. Si on reste dans la robotique, effectivement, c'est celui qui est développé, je crois que c'est à Berkeley. L'idée, c'est un petit robot qui est capable de se faufiler absolument partout, comme les cafards. Hein. Les cafards sont des insectes très plats et qui, en plus, ont la capacité de s'aplatir encore plus s'il faut pour passer. Donc il passe dans des fissures, il passe sous des portes où il y a 2 mm de jeu dessous.
Alors là, j'imagine une utilisation, par exemple, s'il y a une catastrophe naturelle.
Donc là, c'est exactement ça. C'est typiquement ces robots d'intervention en zone où nous, on ne sait pas se déplacer. Évidemment, dans les catastrophes, tremblements de terre, éboulements, choses comme ça, où il y a une victime là et qu'on ne peut pas la voir et qu'on ne peut pas on peut pas l'aborder. Et donc, on envoie ces petits robots qui seront capables de passer dans des trous de souris pour aller voir comment ça se passe.
Et rapidement, j'imagine. Ils sont rapides.
Si possible, rapidement. Ouais.
Oui, parce que dans votre livre, Comment fait le gecko pour marcher au plafond chez Belin, vous dites que le cafard court particulièrement vite par rapport à sa taille, c'est ça ?
Alors, ça fait partie de ces insectes qui se déplacent effectivement très très vite. Hein. Donc, le cafard, c'est de l'ordre de 1,5 m par seconde.
Donc, quand on est petit comme ça va vite.
Quand on est petit comme ça, c'est extraordinaire. Hein. Ouais. Bon,
Usain Bolt est battu, quoi.
En proportion très largement.
Oui,
donc lui, il fait 10 mètres par seconde, hein, quand même. Hein.
Oui, oui.
Mais en proportion de sa taille, qui mesurerait 2 mètres, et bon, ça n'a pas grand sens ces comparaisons, mais toute chose égale par ailleurs, il ferait du 500 km.
Bah, attendez, il y en a un au cinéma, un cafard qui mesure 2 mètres, hein, c'est dans Men in Black.
Ah, hein, oui, donc... c'est vrai. Alors, il commence à remonter dans mon estime un peu le cafard, parce qu'il a plein d'applications. Il a aussi une mâchoire ultra puissante.
Oui.
À quel point et à quoi ça peut servir pour nous les hommes et femmes?
Ça, je sais pas très bien. J'ai pas suivi cette affaire-là, mais il a une autre caractéristique qu'on utilise beaucoup, il a des détecteurs de mouvement à l'arrière et c'est à l'arrière du corps. Il y a deux petits sensils comme ça qui dépassent et qui servent à détecter les mouvements. Et c'est pour ça qu'ils sont si durs à écraser. C'est qu'en fait, ils voient arriver la chaussure, ils sentent arriver la chaussure et ils dévient comme ça. Et cette technique de détection, donc avec deux capteurs qui lui permettent de savoir exactement d'où ça vient et dans quelle direction il faut s'enfuir. Mmh. Ça, c'est des choses qu'on utilise.
Donc même si on marche sur la pointe des pieds, ça sert à rien.
Non,
quoi. Il
n'y
a pas
rien.
Une technique non, pour non. s'en débarrasser non. des cafards. Non,
faut mieux les observer. Serge Berthier, pourquoi les insectes intéressent autant les chercheurs?
Alors, c'est pas les seuls à intéresser, mais c'est vrai que les insectes sont les organismes les plus répandus sur Terre. Hein. C'est-à-dire que si vous tirez au sort un animal, enfin un être vivant d'ailleurs, quel qu'il soit, plante, animal ou végétal, eh bien, 1 sur 2 sera un insecte. En nombre d'espèces, je parle, hein, pas en nombre d'individus,
d'accord.
Mais en nombre d'espèces.
Donc on ne les connaît pas tous, forcément.
Une espèce sur deux d'organismes vivants sur Terre est un insecte.
Donc c'est un champ d'expérimentation gigantesque.
On n'en connaît pas la moitié, quoi. Ouais. On en connaît un peu plus d'un million.
C'est une espèce résistante qui pourrait nous survivre, par exemple, les insectes?
Oh, ça nous a précédés et ça nous survivra très certainement, oui. Ça, malheureusement, on en trouve qui survivent aux explosions nucléaires, on en trouve qui survivent à toutes les catastrophes qui vont peut-être nous décimer un jour, mais eux résistent à ça, sans problème.
Tiens, si on disait un mot du coléoptère, alors, ou des coléoptères, parce qu'il y a évidemment plein de familles et de cousins chez les coléoptères, j'ai découvert qu'ils changeaient de couleur assez facilement, c'est ça ?
Certains changent de couleur, oui. Donc on les étudie évidemment beaucoup parce que c'est un sujet très très intéressant de changer de couleur, hein, comme ça à volonté. Donc effectivement, il y a des coléoptères qui changent de couleur et c'est pas l'effet caméléon, si vous voulez.
C'est pas pour se camoufler ?
Si,
ça peut être ça. Oui.
On ne sait pas trop, mais je veux dire la technique n'est pas la même.
Ah,
caméléon, c'est des pigments, c'est lent. les insectes sont capables de changer de couleur instantanément. En une fraction de seconde. Bon, certains c'est plus long, d'autres ça peut être très court.
Toujours à propos de couleurs et de lumière, observez bien les papillons. Ils pourraient révolutionner le secteur de l'énergie solaire. A tout de suite les curieux sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence.
Les insectes au service de la science, c'est ce que l'on découvre ce soir sur RTL grâce à notre invité Serge Berthier. On va parler, comme Benabar, des papillons, Serge Berthier. Alors leurs ailes, pas seulement, mais on va commencer par là, leurs ailes fascinent les scientifiques, pourquoi ?
Alors les papillons, comme tous les insectes, hein, sont des animaux, comme on disait dans le temps, à sang froid, et donc ils doivent se chauffer, et pour ça ils doivent capter l'énergie solaire. Et donc ils ont résolu ce problème qui nous préoccupe beaucoup. C'est d'abord ils captent très bien, mais ça on sait le faire aussi. Mais ils savent éviter la surchauffe, qui est le gros problème de nos capteurs. Quand nos capteurs sont trop chauds, eh ben les rendements dégringolent, voire les capteurs sont détruits.
Et comment ils font pour éviter
la
surchauffe?
Ils ont trouvé un espèce de frigo là automatique. Dès qu'ils sont trop chauds, ils refroidissent, et quand ils sont trop froids, ils chauffent. Donc en fait, ils arrivent à se stabiliser à la bonne température de vie d'un papillon qui est aux alentours de 40 degrés, comme nous d'ailleurs, hein, au demeurant.
Ouais.
Donc ça, c'est très fort parce que ils sont en plein soleil, et nos capteurs ils montent à 100, 200, 300 et puis ils explosent, et puis ben eux ils restent à 50.
Voilà. Et donc ça pourrait
donc
avoir...
C'est un dispositif qui est bien compris, et que maintenant il y a un problème de matériaux pour intégrer ça dans nos capteurs, mais c'est une piste qui marche déjà, je veux dire. Là on n'est plus dans la recherche de labo, oui. Même, je veux dire, le travail est fait, quoi.
Mais ça veut dire que dans le secteur par exemple des panneaux solaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pourrait utiliser
les deux types, d'ailleurs, aussi bien photovoltaïque que photothermique, pas pour les mêmes raisons, mais dans les deux cas, la chaleur n'est pas une bonne chose. Les photovoltaïques, ils ont des rendements minables, et ben quand ils sont chauds, c'est encore plus minable. Hein, et puis les panneaux photothermiques, ben quand ils sont trop chauds, on les coupe, et puis du coup, ils sont plus refroidis, et alors ils montent à des températures colossales et ils se détruisent très rapidement.
Enfin. Toujours à propos des papillons, Serge Berthier, vous parlez aussi des bombyx qui ont des super pouvoirs. Lesquels ?
Oui, alors ça, c'est notre ami Fabre qui avait trouvé ça, donc ça remonte à plus d'un siècle. Hein. Donc le bombyx qui trouve sa femelle à plus de 10 km de distance, hein, donc par détection chimique, il capte des phéromones grâce à ses antennes. Et donc actuellement, on cherche à s'inspirer. Donc là, ça se passe en France. Hein, c'est des collègues de Saint-Louis, en Alsace, qui ont développé ça, une espèce d'antenne artificielle de bombyx.
Pour trouver l'amour de sa vie, c'est ça, plus facilement pour
pas
nous
trop, pour détecter des explosifs.
Ah non, c'est pas la même
chose.
À longue distance. Hein, voilà.
Donc ça veut dire que dans le contexte actuel que vit la France, mais aussi d'autres pays du monde et d'Europe, il y a de l'argent, il y a des financements pour ce type de recherche.
C'est un problème actuel, et donc il y a moyen de se trouver des financements, oui.
Mais comment ça pourrait marcher, ça ? On pourrait détecter les explosifs de quelle façon ?
Ben, il faut, si vous voulez, il y a des molécules d'explosifs qui se baladent plus ou moins près de la bombe, on va dire, hein. Et donc il faut avoir un capteur suffisamment fin pour les détecter au milieu des milliers d'autres. Vous imaginez, le bombyx à 11 km, il trouve des phéromones, hein. Donc l'idée ici, on a développé cette antenne, ça marche bien, on est à peu près au niveau du chien en sensibilité, donc ça c'est un énorme progrès, parce que ces pauvres bêtes, quand elles cherchent des explosifs, ça veut dire qu'on les a shootés aux explosifs. Donc ça, c'est pas terrible, de plein de points de vue. On en est à peu près à ce niveau-là en détection. Ça veut dire qu'on est quand même capable maintenant de détecter à quelques centaines de mètres, quand même. C'est un pas colossal par rapport aux petits pistolets qu'on pose sur les valises, là. Et voilà, quoi. Et donc, mais on est encore très, très loin du papillon, quoi. 7 ordres de grandeur, ça fait 10 millions de...
quand vous...
Un gap de 10 millions en sensibilité, mais enfin, voilà, on
s'en approche.
On s'en approche.
Ça veut dire, c'est toujours très difficile, j'imagine, de répondre à une question comme celle-là, mais on pourrait utiliser cette antenne que vous décrivez dans combien de temps pour détecter les explosifs ?
Ça c'est très difficile à dire, effectivement, parce que c'est des recherches militaires, en fait, clairement. Donc on sait, comme ça, là, que les Américains sont très en avance dans ce domaine. Ils sont capables de protéger un camp entier avec des détecteurs d'explosifs qui peuvent détecter à presque un kilomètre, quand même. Voilà, sauf que il faut un avion entier pour amener le matériel, quoi.
Alors ça arrive souvent dans notre studio de la curiosité, une petite mouche qui se balade, qui vient nous chercher des noises. Et ben on va l'observer de beaucoup plus près, parce que figurez-vous que ses yeux sont extraordinaires, un espoir pour les aveugles. À tout de suite sur RTL.
Et la bouche pleine de joyeux ramages allait à la chasse aux papillons.
Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les plantes, les animaux et les microbes sont remarquables. Ils ont effectué des milliards d'années d'ingénierie et de tests pour prospérer sur la Terre.
Un moment où tu vas te sentir animal, animal, animal.
Après toute cette R&D, ce qui ne fonctionnait pas n'existe plus, et ce qui nous entoure a appris à survivre. Les solutions à nos problèmes, petits et gros, sont tout autour de nous. Il suffit de regarder.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il suffit de regarder et d'inventer aussi. On parle des robots qui s'inspirent des insectes. C'est ce que notre invité nous fait découvrir sur RTL, Serge Berthier. Je rappelle que vous êtes professeur de physique, spécialiste des nanotechnologies, et que vous publiez « Comment fait le gecko pour marcher au plafond ?» Si vous voulez la réponse, eh bien vous trouvez le livre. Il est édité chez Belin. Les insectes, on y revient. La mouche est partout, elle est complètement banale, et pourtant, elle a des yeux absolument extraordinaires. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Pourquoi est-ce qu'il faut la regarder droit dans les yeux ?
Elles ont des très beaux yeux, des très belles pattes aussi, mais c'est un autre sujet.
Vous êtes un esthète.
Elles ont résolu cette très difficile question de mesurer les vitesses. C'est-à-dire que c'est très difficile de mesurer une vitesse, parce qu'une vitesse n'engendre pas de force, et donc ça ne fait rien bouger une vitesse, si vous voulez. C'est un phénomène qu'on observe quand on sait qu'on est près d'un objet. Quand on bouge, on sait qu'on est près ou loin d'un objet. Quand on l'observe, s'il bouge très vite, c'est qu'il est très près. Si une montagne, quand vous êtes dans un train, la montagne ne bouge pas parce qu'elle est très loin, mais les poteaux télégraphiques qui sont le long de la voie bougent parce qu'ils sont très près. Alors, il y a une grandeur qu'on appelle le flux optique, et les mouches, au lieu de mesurer la vitesse d'un côté, la distance de l'autre, elles mesurent ce flux optique, et ce flux optique les renseigne à la fois sur la distance et la vitesse.
Donc ça leur donne une capacité à éviter les obstacles, par exemple
De réagir à un objet, parce qu'elles peuvent savoir immédiatement s'il est près ou loin, si elles s'en approchent rapidement ou pas. Voyez, toutes ces choses. Donc ça, des applications, évidemment, pour les avions, pour l'aviation, très, très importantes. Et puis, effectivement, ça peut servir si on arrive à...
Je disais pour les malvoyants tout à l'heure.
Mesurer ce flux optique et puis le faire percevoir aux malvoyants. Il faudra qu'ils le perçoivent quand même, d'une façon ou d'une autre. Et ça, je ne sais pas comment. Effectivement, ils auront l'info sur la proximité d'un danger.
Voilà. La proximité d'un obstacle.
D'un obstacle aussi bien en tant qu'en distance, je veux dire.
Alors, il y a plein de surprises à découvrir grâce à vous. Tiens, par exemple, les guêpes qui peuvent aider les bricoleurs du dimanche. grâce à quoi ?
Ah, magnifique. C'est une idée qui vient de... Bon, percer un trou, on sait que c'est très difficile parce qu'on ne peut pas appliquer une force plus grosse que son poids. Voilà, et quand son poids ne suffit pas, et ben en gros, on sait pas percer le trou, quoi.
Ah, c'est pour ça que j'arrive pas à bricoler.
Avec la perceuse, je vous imagine bien avec une perceuse.
Trompez-vous, j'essaye de bricoler.
Et à côté de ça, ben, vous avez ces petites guêpes, toute une famille de guêpes qui ont ce qu'on appelle une terrière à l'arrière, c'est une espèce de très longue mèche comme ça, et qui sont capables de percer des écorces sur plusieurs centimètres, y compris dans des bois durs.
Comment ils font ?
Or, elles pèsent un dixième de gramme. Donc, impossible. Eh bien, elles y arrivent. Donc, elles ont inventé une espèce de mèche, de double mèche. En gros, quand il y en a une qui pousse, il y a l'autre qui tire. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune force appliquée sur la mouche, sur la guêpe. Les forces sont repoussées d'une mèche sur l'autre. Hein. Et nos amis allemands, qui sont évidemment très forts en bricolage, ont développé une perceuse, dite pour dame, mais c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent, c'est élégant. Oui. Parce que vous percez les trous sans appuyer.
Oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus
ce qui peut être très intéressant.
Et faire très plaisir aux hommes aussi.
Et voilà, et c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui
Tous ces fainéants qui bricolent pas.
Si on lançait ce débat, tiens, dans la curiosité, c'est un très très bon débat. Tiens, un petit dernier, si j'ose dire, toujours détaillé dans votre livre publié chez Belin, Serge Berthier, la fourmi, quelle partie de son corps fait l'objet de recherches? Il y en a plusieurs, j'imagine.
Il y en a plusieurs, mais effectivement, on a beaucoup regardé, ça c'est avec mes collègues de Namur, en Belgique, on a beaucoup regardé ce qu'on appelle la fourmi du désert. Bon, il y en a plusieurs, qui est cette petite fourmi merveilleuse qui a choisi de vivre au pire moment de la journée dans le désert, c'est-à-dire au moment où il fait le plus chaud. Tout simplement, s'il n'y a aucun prédateur à cette heure-là. Mais donc, comment fait-elle pour résister au soleil?
Pour ne pas mourir, ne pas fondre.
Pour ne pas mourir, hein, donc il faut imaginer qu'elle marche sur un sable qui peut être à 70 degrés quand même, donc c'est une plaque chauffante. Hein. Mmh. Et puis, il y a le soleil qui arrive au-dessus avec ses UV, etc., toutes ces choses mortelles. Alors, elle a trouvé beaucoup de stratégies pour survivre comme ça. Et ce qui nous a intéressé en optique, c'est qu'elle a développé des poils prismatiques. Et donc,
ça veut dire quoi, ça ?
En forme de prisme, donc, ouais. un triangle isocèle, si vous voulez, avec la pointe vers le haut. Et dans cette position, les prismes renvoient la totalité de la lumière incidente. Donc, en fait, ils réfléchissent absolument toutes les radiations, et y compris ces fameux UV mortels.
Est-ce qu'on pourrait se fabriquer des t-shirts ou des
pulls
en poils prismatiques ?
Voilà, bien sûr. C'est l'idée, une des idées, si vous voulez. La protection aux UV va devenir un problème très, très actuel. Nos méthodes actuelles vont être interdites bientôt. Il faudra bien les remplacer par autre chose. Et donc, l'idée de structure fait son chemin. Et donc, il y aura sans doute des applications à cette brave fourmi.
Donc, c'est des poils qui fonctionnent comme des miroirs, en quelque sorte, c'est ça?
Oui, c'est
hein.
des miroirs qui... La situation est telle que la lumière est en ce qu'on appelle en réflexion totale. Tout est réfléchi, rien n'est transmis.
C'est la fourmi légionnaire, celle dont vous nous parlez?
Non, alors c'est pas la fourmi légionnaire.
Parce qu'elle aussi, elle intéresse les chercheurs.
Ouais. Bon, alors ça c'est une... je crois... Bon, c'est des choses, d'ailleurs, que les gens en Afrique connaissent depuis l'aube de l'humanité.
Oui.
Hein, et ils les utilisaient, effectivement. Donc, les fourmis légionnaires, elles ont de très grosses mandibules. Enfin, les soldats, tout au moins, ont des très fortes mandibules. Et donc, on s'en sert pour fermer les plaies. On fait mordre la fourmi sur les lèvres de la plaie. C'est tellement fort que ça le referme très bien. On arrache la tête et puis ça fait une suture parfaite.
Mais ce qui paraît fou quand même, c'est un animal.
Donc, là, c'est des choses que les gens connaissaient très bien d'ailleurs. Hein. Donc là, c'est pas du biomimétisme. Je dirais que c'est plus de l'anthropologie. Les gens sont allés regarder ce que faisaient nos amis qui vivent encore dans la nature.
Mais alors, ces insectes dont vous nous parlez, Serge Berthier, qui sont extrêmement nombreux, ils ont la capacité de changer en fait de peau et de s'adapter à leur environnement plus rapidement que nous, les hommes ? De développer ces poils trismatiques, de...
Plus rapidement que nous.
Prismatique, bien sûr.
Mais plus rapidement que nous, je pense pas. Ils ont mis quelques millions d'années à arriver là. Quelques milliards d'années, peut-être même. Hein.
Donc on a raison de s'inspirer d'eux.
Je veux dire, l'évolution, c'est un processus relativement lent, quand même. Hein.
Aussi pour les insectes.
Merci beaucoup, Serge Berthier. Comment faire gecko pour marcher au plafond? C'est le titre de votre livre. Il fait comment, tiens? C'est de la colle ou c'est quoi? C'est une ventouse?
C'est de la colle sèche. C'est force électrique. C'est très intéressant parce que c'est de la colle sans aucun produit chimique. Une fois de plus, donc strictement des matériaux complètement neutres. Et donc l'avenir.
Eh bien, vous saurez comment marcher au plafond, Thomas. Ben voilà. C'est bien, vous avez la recette.
Allez, je vais essayer de faire ça sur le plafond du studio de la curiosité. Merci beaucoup. C'est publié chez Belin.
Merci.
Vous écoutez RTL.